On récapitule sur la monnaie. Je me doute bien que toute cette partie sur la monnaie est difficile à intégrer. Plutôt que de me lancer dans de nouvelles explications techniques, j'aimerais conclure par quelques points importants à retenir. La monnaie, le carburant de l'économie. Les agents économiques, que sont les entreprises, les particuliers et l'État, ont tous besoin de monnaie pour financer la production des biens et des services, pour consommer et pour épargner. Tous ces agents sont interconnectés par une plomberie financière dans laquelle circulent de simples promesses faites par les banques de dépôt, la monnaie scripturale, et quelques billets de la monnaie centrale. Dans l'ensemble, on peut affirmer que ce sont bien les banques de dépôt qui contrôlent la quantité de promesses qui nous sert de monnaie principale. Les outils de contrôle à disposition de la banque centrale, notamment le taux de réserve obligatoire, sont peu efficaces. Conclusion, le moteur économique a besoin de carburant pour avancer, et ce sont principalement les banques de dépôt qui le créent. Cela étant dit, les banques ne peuvent rien faire sans l'aval de leurs clients. En effet, si les entreprises, les particuliers ou les États refusent de s'endetter auprès des banques, alors aucun nouveau carburant ne peut être injecté dans le moteur. Les banques sont également responsables de l'allocation du nouveau carburant. En effet, parce qu'elles décident de qui peut ou ne peut pas bénéficier d'un crédit, elles décident des points d'injection du carburant, plutôt dans l'immobilier, plutôt pour des start-up, plutôt pour les services publics. Attention, les banques ne décident que de l'allocation du nouveau carburant. Une fois les promesses créatrices de monnaie effectuées, la monnaie scripturale circule dans le moteur économique au fil des paiements et des prêts. Vous pouvez décider de prêter 100 euros à votre voisin en lui faisant un virement. Toutes les dettes ne sont pas bancaires. Si l'épargne est toujours créée par un crédit bancaire, l'allocation de cette épargne après sa création dépend du bon vouloir des épargnants eux-mêmes. Les principaux redistributeurs d'épargne sont les marchés financiers et jamais les banques de dépôt, que nous avons pour le moment réduits aux fonds d'investissement. Pour toute annulation, remboursement d'un crédit bancaire, une quantité de carburant équivalente est détruite. En d'autres termes, une population qui se concentre sur le remboursement de ses dettes bancaires est une population qui détruit du carburant. Mauvaise idée. Les banques centrales, les régulateurs de l'économie. Il est tout à fait possible d'utiliser du nouveau carburant pour annuler, rembourser, un ancien crédit bancaire ou pour rembourser une dette non bancaire, faire circuler de la monnaie. On parle de refinancement de la dette. Les règles comptables imposent à n'importe quelle entreprise, donc aux banques de dépôt aussi, de conserver une colonne actif, somme de la valeur des possessions de l'entreprise, plus grande que sa colonne dette, dans le cas d'une banque de dépôt, dette plus promesse de mise à disposition de billets. Ainsi, quand un emprunteur fait défaut, qu'il ne rembourse pas son crédit, la banque perd un actif, la taille de sa colonne actif diminue, mais sa colonne dette ne bouge pas, sinon quelqu'un quelque part verrait le montant inscrit sur son compte diminuer. Donc, le non-remboursement d'une quantité suffisante de crédit accordée par une banque de dépôt peut l'amener à une faillite comptable, insolvabilité. Les promesses faites par les banques de dépôt ne peuvent pas circuler sans des transferts de promesses faites par la banque centrale. Quand 100 euros de promesses scripturales sont envoyés d'une banque A vers une banque B, et que 99 euros du même genre de promesse font le chemin inverse, la banque A doit transférer 1 euro de promesse centrale à la banque B. L'un des rôles de la banque centrale est de s'assurer que les banques ne manqueront jamais de promesses centrales, sans quoi c'est le carburant du moteur économique qui ne circule plus et les banques de dépôt qui se mettent à faire faillite. Ce système de promesses centrales, qui forme une tuyauterie reliant les banques de dépôt entre elles, correspond au système de graissage du moteur économique. Il ne s'agit pas de faire accélérer le moteur, seul le carburant peut y arriver, mais de faire en sorte que, quel que soit le régime de fonctionnement décidé par les banques de dépôt et les agents économiques, les rouages soient suffisamment bien huilés pour ne pas casser, éviter la faillite des banques de dépôt. Autrement dit, une injection de monnaie par la banque centrale en direction des banques n'a jamais pour but de permettre l'accélération du moteur, mais simplement d'éviter que les éléments qui le composent ne se brisent. De même, le remboursement d'un crédit par une banque de dépôt en direction de la banque centrale détruit de l'huile de moteur. En parallèle, la banque centrale est également connectée au circuit qui apporte du carburant à l'économie. Si elle le souhaite, elle peut décider de financer des prêts destinés aux agents économiques classiques, donc ici tout le monde sauf des banques de dépôt, ou des achats de richesses, souvent des produits financiers, pour injecter dans l'économie de la monnaie carburant. On parle alors de politique non orthodoxe ou non conventionnelle. Le quantitative easing en est un exemple. En résumé, il faut bien distinguer le carburant et l'huile de moteur. Le carburant correspond à tous les prêts bancaires, qu'ils proviennent de banques de dépôt ou de la banque centrale, accordés à des agents économiques qui ne sont pas des banques de dépôt. Ce carburant doit permettre au moteur d'accélérer, croissance économique. En revanche, l'huile de moteur correspond à tous les prêts accordés par la banque centrale à des banques de dépôt et vise avant tout à éviter que les pièces du moteur ne se brisent, faillite bancaire. Les deux tuyauteries, huile et carburant, sont parfaitement distinctes. L'huile n'est pas et ne sera jamais du carburant, tandis que le carburant n'est pas et ne sera jamais de l'huile. Les grands leviers d'action sur le système. En plus de ces systèmes d'injection et de circulation de carburant et d'huile de moteur, les entreprises, les particuliers, l'État, les banques de dépôt et la banque centrale voient leurs actions contraintes par un certain nombre de règles. On peut citer les règles comptables qui définissent la faillite ou celles qui définissent les conditions dans lesquelles la banque centrale et les banques commerciales peuvent injecter de la monnaie dans les différentes plomberies. Ainsi, lorsque l'on évoque des problèmes financiers, il y a toujours deux leviers d'action. Le premier correspond à la réécriture des règles qui contraignent le fonctionnement des différents acteurs, ainsi que celles des différentes plomberies. Ces règles sont politiques, donc arbitraires. Elles peuvent être faites, défaites ou modifiées en fonction de l'objectif que l'on se fixe. Par « on », j'entends ceux qui ont le pouvoir de changer les règles. Donc, théoriquement, en démocratie, cela devrait être les volontés conjointes de vous et moi. Le second correspond à la réorganisation des différentes plomberies financières. En effet, sans entrer dans le détail, l'interprétation des règles et des lois qui encadrent leur fonctionnement permet d'imaginer différents types de connexions. Pour utiliser une autre image, les règles financières sont comme des pièces de Lego que nous sommes libres d'assembler à notre guise, pour fabriquer ici une voiture, là une fusée, ici encore un château fort. Autrement dit, même en conservant les règles actuelles, il est possible de réorganiser les plomberies financières pour apporter plus efficacement de la monnaie centrale, huile ou scripturale, carburant, à tel ou tel acteur. Avec ces mécanismes en tête, voici donc quelques points importants que vous pouvez retenir. De la monnaie comme s'il en pleuvait. Premièrement, la monnaie n'existe pas en quantité finie. Elle est créée et détruite par le biais d'opérations bancaires et de règles comptables que nous pouvons faire, défaire et modifier à volonté. Bien sûr, modifier les règles engage de nombreuses conséquences très complexes. Mais rien qu'en modifiant le fonctionnement de la plomberie financière, sans toucher aux règles fondamentales qui la régissent, on peut faire déjà énormément. Ceux qui savent se creuser la tête peuvent ainsi faire financer à peu près tout et n'importe quoi. Pour faire simple, lorsque vous entendez un financier ou une personnalité politique vous expliquer qu'il n'y a pas assez d'argent pour ceci ou cela, vous pouvez traduire par « je n'ai pas envie de le faire » ou « je n'ai pas suffisamment de pouvoir politique pour le faire » ou encore « je n'ai rien compris au système financier », mais surtout pas par « ce n'est pas possible ». La faillite, un épouvantail agité par le pouvoir politique. Deuxièmement, la notion de faillite est purement arbitraire. Ici encore, il s'agit de règles comptables que nous pouvons modifier à volonté. On peut éviter toutes les faillites simplement en modifiant légèrement le fonctionnement de la fameuse plomberie. Il s'agit avant tout de volonté et de pouvoir politique. Vous avez pu le constater lors de la crise des subprimes en 2008. Les banques, les entreprises et les États que le pouvoir politique, gouvernement, banque centrale, Commission européenne, Parlement, grands actionnaires, PDG, etc., n'a pas souhaité voir faire faillite, n'ont pas fait faillite. Autrement dit, invoquer la faillite comme une contrainte insurmontable pour justifier la privatisation d'une entreprise, son rachat par un groupe étranger ou même sa nationalisation n'a aucun sens. Il s'agit d'une décision idéologique et ou politique. Soit ceux qui prennent ces décisions sont persuadés qu'une faillite est aussi naturelle que la présence de pesanteurs sur Terre, alerte, idéologie ou ignorance, soit la faillite est un prétexte qui masque les véritables motivations du décideur, alerte, politique. Ne pas confondre carburant et huile de moteur. Troisièmement, il faut bien faire la distinction entre le carburant du moteur, les promesses faites par les banques de dépôt et la banque centrale aux agents économiques, la monnaie scripturale, et les billets de banque, une partie de la monnaie centrale, sans lesquelles le moteur ne peut accélérer, croissance économique, et l'huile de moteur, les promesses faites par les banques centrales aux banques de dépôt, monnaie centrale électronique, sans laquelle les pièces du moteur peuvent casser. Carburant et huile circulent dans des tuyaux distincts. Autrement dit, quand on vous apprend que la Banque centrale européenne a prêté X milliards aux banques, inutile de vous demander sur le compte de qui se trouve cette monnaie. Personne ne s'est acheté un luxueux appartement ni n'est parti en vacances aux Bahamas avec. Tout simplement parce qu'il s'agit d'huile de moteur et pas de carburant. Or, seul le carburant peut servir de pouvoir d'achat. En revanche, quand on vous explique que la Banque centrale a acheté Y milliards de produits financiers à des fonds d'investissement, donc pas à des banques, alors là oui, vous pouvez légitimement vous demander sur le compte de qui s'est retrouvé tout ce carburant. Le défaut de monnaie n'existe que virtuellement. Enfin, quatrièmement, le concept de monnaie doit être rattaché au concept de richesse, auquel nous consacrerons la prochaine partie de ce livre audio. La monnaie n'existe que pour permettre les échanges de richesses et le financement de la création, production de ces dernières. Il en résulte que les problèmes de production, croissance économique, et d'allocation de richesses et de monnaie, inégalité, sont bien souvent des problèmes financiers qui reposent sur des règles arbitraires, parfaitement modifiable et sur une tuyauterie financière qu'il serait tout à fait possible de transformer. Aucune situation financière n'est irrémédiable ou en dehors de notre contrôle. La capacité monétaire de financement de projets d'un pays est théoriquement illimitée. Techniquement, nous devrions pouvoir financer autant d'hôpitaux, d'éoliennes ou de logements que nous le souhaitons. La limite n'est jamais le manque de monnaie, mais toujours les règles arbitraires que nous nous fixons et qui nous empêchent d'accéder à cette monnaie, ou, bien sûr, le manque de ressources physiques pour réaliser le projet.